J'ai écrit il y a 7 ans ma première lettre à Lord Chandos en répétant en boucle le mot robinet jusqu'à ce qu'il perde tous ses joints, que l'objet disparaisse et qu'il ne reste plus détaché et éparse, que les lettres tombaient de ce mot robinet jusqu'à l'insignifiance. Mais j'ai vécu à la même époque l'aventure inverse avec un autre mot, avec le mot âme, dont j'ai découvert un jour, à ce point incapable de le définir que j'étais certain que même le dictionnaire y échouait, que je n'avais pas besoin de cette définition et que l'âme, comme le temps pour Augustin, je savais profondément, intuitivement ce que c'était, tant qu'on ne me demandait pas de la définir. C'était comme un fruit comestible, désaltérant, exquis, dont j'aurais été incapable de préciser la couleur, la forme ou la saveur. J'avais une âme, je n'en doutais jamais, et ce, bien avant de devenir moniste, spinoziste ou réductionniste. J'avais une âme et j'en étais aussi certain que de pouvoir lire dans ma tête. J'avais une âme comme j'avais une voix intérieure qui suivait à peu près mes pensées, comme mon doigt avançait sous les lignes de mes livres. J'avais une âme, mais qui ne se réduisait pas à cela, et j'étais fasciné par ce mystère, par le fait qu'il pouvait y avoir quelque chose d'aussi évident qu'indéfinissable. Il était plus simple de considérer la chose comme une illusion, comme l'accent circonflexe qui résonnait sur son A, y incitait d'ailleurs. Je crois que c'est par Nietzsche, un soir, en promenant mon chien dans un quartier résidentiel, que j'en ai eu la bouddhiste révélation, en tombant comme Zarathoustra en extase devant une sorte de cyprès dont se détachait une branche indocile. J'ai passé les jours suivants à griffonner dans mon carnet à spirale un croquis du cyprès et les premiers éléments d'une théorie nouvelle appelée le surdéterminisme qui prétendait, de façon finalement assez cybernétique, expliquer que l'âme pouvait jaillir d'un environnement physicaliste contraint en se contraignant à son tour elle-même. La branche que j'avais vue n'était rien d'autre qu'une boucle de rétroaction. Je crois assez à la théorie de l'intuitionniste Brewer, cet autre obsédé de l'âme, le don philosophique est perdu à l'âge de 18 ans, l'astuce de l'appliquer mise à part. J'avais 18 ans alors, et probablement épuisé déjà dans cette aventure nietzschéenne et canine, tout ce que mon esprit avait de vraiment philosophique. La suite serait assez convenue, j'emprunterais à Daniel Dennett, à Jagon Kim, à David Chalmers, leur réfutation matérialiste sophistiquée du concept d'âme, et le mystère de mes années d'enfance finirait par s'évaporer dans l'alambic de leurs livres aux arguments raffinés. Était-ce ma découverte récente et hivernale des livres de Chesterton qui m'avait fait douter ? J'ai fait l'autre jour un rêve effrayant et significatif. J'étais en famille et je voulais prouver soudain que l'âme existait bien. Je suis pour cela entré avec la noble témérité d'un savant fou sur le point de tester sur lui sa dernière et dangereuse machine dans une petite pièce octogonale aux parois vitrées. Il y avait là des vêtements suspendus et la chose aurait pu être une sorte de dressing s'il y avait eu aussi sur une étagère des sortes de coupes comme celles qu'on gagne dans les compétitions sportives. Mais il s'agissait, chose effrayante, d'urne funéraire et la pièce vitrée était un four crématoire. Soucieux de la cohérence de mon rêve, je me revois reformuler l'hypothèse que les vêtements suspendus devaient être en matériaux réfractaires. Pour moi, il était trop tard, on avait déjà dépassé les 400 degrés et mes doigts commençaient à me faire très mal. Mais après tout, j'étais volontaire. Ma femme et mes enfants regardaient, ce qui n'était pas un supplice, mais une façon éclatante de démontrer un argument philosophique, car j'étais ici précisément pour prouver que l'âme existait bien. C'est alors, au sommet incandescent du plus pur dogmatisme, que je me suis enfin formulé un doute. Si mon corps disparaissait, par quel moyen convaincre mes proches de la survie de mon âme ? La question que je me posais était en fait bien plus prosaïque. Avec quelle main allais-je pouvoir désormais jouer avec ma Nintendo Switch ? Je m'étais bullé, comme on disait avec ma fille quand on jouait ensemble à Super Mario 3D World en mode multi, et que pour passer les moments difficiles, elle entrait dans une bulle. Mais personne ne pouvait plus me rappeler au réel, me débuller cette fois avec la touche ZR, et je flotterais pour toujours dans une éternité atroce et savonneuse.